On a tous en mémoire un ou deux ou mille souvenirs culinaires, des petits et grands moments de partage, sophistiqués ou improvisés. Que ce soit un festin somptueux ou une improvisation gourmande, chaque plat a le pouvoir de raconter une histoire, de créer des liens et de faire battre nos cœurs un peu plus fort. À travers ces mets qui éveillent nos sens, nous explorons les joies simples et les émotions profondes qui peuvent rendre un repas mémorable. Parce que cuisiner, c'est bien plus qu'une simple préparation culinaire. C'est une façon de montrer son affection, de célébrer la vie et de s'exprimer avec une touche personnelle. Alors les ingrédients de l'émission sont simples. Un épisode, une recette, une rencontre. Dans Cuisiner avec amour, nous avons choisi d'explorer l'essence même des moments passés dans la cuisine. Chaque épisode sera une immersion dans une recette, une rencontre avec une personne qui partage ses histoires, ses passions. Parce qu'au-delà des ingrédients et des techniques, il y a des récits à découvrir, des rires à partager et des liens à tisser. Alors préparez-vous à vous immerger dans les aventures culinaires où chaque plat est une déclaration d'amour, chaque préparation, une histoire à raconter. Alors on est avec Gérard à Aulas qui va nous parler d'une recette qui s'appelle la...
Cargolade. C'est une spécificité catalane. Ici on est en Cévennes, peu de Cévenols connaissent vraiment la cargolade. Au Vigan, depuis 40 ans que je trafique par ici, il y a quand même pas mal de gens maintenant qui commencent à connaître et beaucoup apprécient. Alors la cargolade, c'est le plat traditionnel catalan qui se mange entre amis, voisins, famille. On pratique la cargolade, de Pâques environ, jusqu'après les vendanges. C'est un repas qui se passe en extérieur, exclusivement. Alors, comment ça se fait? C'est très compliqué, surtout quand on ne sait pas trop. Il faut le prévoir bien à l'avance. Hein. Il faut d'abord aller ramasser les escargots. Les escargots, c'est le petit gris. Il y en avait autrefois plein nos chemins, plein nos terrains, plein nos vignes. Les escargots des vignes, on ne peut plus les ramasser parce qu'ils sont pleins de pesticides. Alors, on en trouve encore un peu sur les bords de chemin, là où c'est pas trop travaillé. Alors, une fois qu'on a ramassé les victimes, on les met dans une caisse en bois avec du thym. Le thym, chez nous, c'est la frigoule. La frigoulette, c'est à Marseille. Hein. Voilà. Et pendant un mois, on les laisse jeûner. Au bout d'un mois, alors on invite les amis, les voisins, on sort les escargots de la caisse. Alors c'est un travail collectif, la préparation. C'est une chaîne. Le premier de la chaîne, avec un couteau pointu, attrape l'escargot et racle l'opercule. Il passe l'escargot au suivant, qui met un peu de sel et poivre. Alors, le sel et le poivre, c'est un mélange très savant. Il faut un gros tiers de poivre pour deux petits tiers de sel. Le troisième, enquille dans l'escargot un petit pois d'aïoli. Alors l'aïoli, il ne faut pas la rater. Hein. Et il faut un peu d'œuf et beaucoup d'ail. Et le quatrième, ça c'est le travail de loin le plus difficile. Généralement, c'est moi qui le fais parce que je sais le faire. J'installe sur la table le grill catalan. C'est un grill rond, plein de petites alvéoles. Alors il y a des grills de 100 places. Avec ma femme, des fois, le samedi ou le dimanche, on s'en fait un petit grill pour nous deux. Hein, voilà. Et il y a des grills de 200, 300, 500 places. Alors, il faut partir du centre. On met le premier escargot, le deuxième, le troisième. On y va comme ça, en colimaçon, c'est le cas de le dire. Et on enroule, on enroule, on enroule. Il faut bien les serrer pour qu'ils ne gesticulent pas trop. Pendant ce temps, quelqu'un prépare le feu. Généralement, c'est moi aussi, parce que le feu n'est pas très loin du grill. Alors, un feu, dans l'idéal, avec des sarments de vigne, ou alors ce qu'on appelle des rabassous, des petits bras de la vigne, bien secs, bien sûr. Quand le bois est bien brûlé, on est parti, ces braises-là, on installe le grill, ou le premier grill, parce que des fois il y en a plusieurs, hein. On installe le grill sur la braise, moi en l'expliquant, je le vis, je le revis, hein. Je me régale que je vais bientôt les manger. On installe le grill sur la braise, et alors là, ça dure à peu près 7 à 8 minutes, suivant l'état de la braise. Souvent, il y a des convives qui sont là qui ne connaissent pas. Des dames de la ville qui viennent et qui ne connaissent pas ça. Elles ont des airs dégoûtées. Mais après, quand il faut les manger, quand même, elles les mangent. Hein. On les laisse pendant 7 à 8 minutes sur la braise très vive. Alors là, il y a un gros travail qui se fait. J'ai à l'avance préparé un petit bâton un peu long avec une grosse pointe au bout, retournée, qui m'aide à retourner l'escargot. Parce qu'en cuisant, ils sont coquins. Hein. Il y en a qui se retournent, il y en a qui sautent à 20 cm de hauteur. Il faut bien les remettre en place après. Et quand c'est cuit, on installe ça sur une table, grande table. Tout le monde est prêt au milieu. Les tartines d'aïoli sont là. On a sorti les épines d'acacia pour aller les récupérer au fond des escargots. Ou alors les clous du maréchal Ferrand, les clous pour ferrer le cheval. On en a plein à la maison de ces clous. Voilà, et on commence à déguster ce festin extraordinaire. Alors, traditionnellement, ils s'en mangent par personne de 10 à 200. À 200, moi, je n'y suis jamais arrivé, mais quand on était jeune, ça m'arrivait fréquemment de manger entre 100 et 150 escargots. C'était l'entrée, hein, c'était le début du repas. Une fois qu'on a terminé les escargots, on fait griller les saucisses, les boudins catalans, qu'on appelle la boutifarre, et côtelettes, hein, les côtelettes d'agneau. Voilà, tout ça, prend du temps. Ça nous amène sur le coup des 5 ou 6 heures d'après-midi, parce qu'on ne commence pas à les manger, les escargots, avant 2 heures, le temps de préparer. Alors, évidemment, c'est l'été, il fait chaud, il fait soif. C'est très bien quand il y a une rivière pas trop loin, pour y déposer les bouteilles de rosé et de vin rouge, pour que tout ça soit bien, bien frais. Autrement, bon, s'il n'y a pas de rivière, on met dans le frigo, voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Et alors, le repas est presque terminé, mais alors, on est raisonnable, les Catalans. Hein. Pas de légumes. Pas de légumes. Quand on a mangé l'escargot, la saucisse, le boudin, les côtelettes, on est raisonnable, on s'arrête. Peut-être un petit morceau de fromage. Et ici, comme on est en Cévennes, pour leur faire honneur aux Cévenols, on mange un morceau de pélardon. Voilà le gros de la cargolade.
Amb cargols ben adobats, amb l'embut ben enllardats, l'agulla al dits, un tros de pa i un cop de vi per els a fer baixar. Força costelles del ronyonal, runs de saucissa, n'hi ha tant que cal, amb alioli dins d'un gros plat, i sal i pebre, el tot ben rellevat. Cargolada sempre seràs, en tot temps reina dels catalans. De la plana al Canigó, seràs cantada dins tot el Rosselló. Surt les gravilles, tot s'acou bé, i tot el torn d'aquell braser. Tothom respira, malgrat el fum, de carn torrada, aquell tan bon perfum. Sense cap taula per posar el pa, sense cadira per s'assentar. 13 catars t'ho passa bé, amb aquell vi de calcabun celler. Cargolada sempre seràs, en tot temps reina dels catalans. A la plana al Canigó seràs cantada dins tot el Rosselló. Del nostre vi tan renomat, tots els canyors s'han arregat, i la borratxa plena de vi dins de les mans se fa sempre per a mi. Cargol, saucís, tot hi ha passat, de les costelles l'os és pelat, de l'alioli i el plat és net, i amb el vi blanc no sent passar la set. Cargolada sempre seràs, en tot temps reina dels catalans.
Alors c'est une recette qui te tient à cœur, je l'entends quand tu en parles, c'est une recette catalane comme tu disais. Et on est dans les Cévennes, tu vis dans les Cévennes depuis très longtemps, tu peux nous dire d'où elle te vient en fait cette recette, c'est quoi la source de cette recette?
C'est une recette ancestrale catalane. C'est mon grand-père, j'avais un grand-père qui était paysan au Soleil. Le Soleil, c'était un petit village au sud de Perpignan sur la route de Prades. Quand j'étais gamin, il y avait à peine 1000 habitants, aujourd'hui ils sont 15 000. C'est devenu un gros, gros village. Quoi. Voilà. Quand j'y vais d'ailleurs, je ne reconnais plus personne. Ou alors ils sont partis, ou ils sont morts, j'en sais rien. Oui, ça vient de la nuit des temps.
Tu te souviens de la première fois que tu as mangé cette recette?
Peut-être pas exactement la même recette. Je m'en souviens comme si c'était hier, j'avais 6 ans. J'allais avec mon oncle Jean. Mon oncle Jean était un paysan, c'était le beau-frère de mon père. Il allait souvent le matin au champ, travailler avec les bêtes. Voilà. De temps en temps, j'allais avec lui. J'y allais surtout quand je savais qu'il allait brûler les haies. Il faisait les cobuages. J'avais 6 ans. C'est les premiers escargots que j'ai mangés, je m'en souviens. Il faisait brûler les haies. Et après que les haies sont brûlées, on repassait. Il sortait de sa petite musette là, 2-3 aiguilles d'acacia. Il me dit, maintenant on va se régaler, on va manger les escargots. Alors ces escargots, il y en avait plein là, et là ils avaient brûlé, ils les avaient grillés, et on se régalait. Je m'en souviens encore des escargots aujourd'hui. J'étais pas jeûné, on n'a jamais été malade. Il n'y avait pas de sel, de poivre, d'aioli à mettre dedans, mais il y avait quand même le vin rouge. Je n'avais que 6 ans, mais sur les escargots, quand j'avais soif, l'oncle Jean me disait, Je lui demandais à boire, il me disait, tiens petit, bois un petit coup de vin rouge parce que sur l'escargot, il ne faut surtout pas boire de l'eau. C'est les souvenirs d'enfance qui restent ça, voilà. C'est aussi loin que je me souvienne. Et pour la fête du village, on faisait la cargolade, bien sûr, par tranche d'âge. Et nous, je me rappelle l'époque, on avait 16 ans, on faisait la cargolade, bien sûr, au bord de la rivière, au bord de l'eau, c'était bien d'avoir de l'eau. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et bien sûr, les filles ne nous disaient jamais où elles allaient faire leur cargolade, parce que le but, après avoir bien ripaillé, c'était de retrouver la cachette des filles. Voilà. Des fois, elles ne se cachaient pas très bien pour qu'on les retrouve plus facilement d'ailleurs. Hein. Et à ces occasions de cargolade, on buvait un peu du vin, bien sûr, il faisait chaud, l'escargot, ça pompe. Et j'ai eu des copains qui étaient un peu bourrés, et on a eu quelques petits accidents qui, heureusement, n'ont pas été bien méchants. Un certain François, un jour, qui a voulu plonger dans la rivière à la fin de la cargolade, lui était plein, mais la rivière était vide. Et il a plongé à 2-3 mètres de hauteur, bien sûr, sur les petits galets de la tête. Il ne s'est pas trop fait mal.
Patapim, patapá, no sei de mi sonrío, no me apastrigues tía, que me ofende su tranquilidad de la sede. Patapim, patapá, no sei so que me arribo, eixa es nada vieja, que me valo su camino, que camino te trevo. No sei palo su nudo, que yo quede encantado, tal vez de pasar, yo que me guía así tu matía largueño. No sei palo sonoro, da io che l'ho incantato, non è impasti pensare, la noi che lo di, era noi. Tau cum la periclado, e tutta capilata renuncerà dei lui a me come avanzo, ni lo re della neo, ni lo verde la prado, ni lo canto mai nanni la nado su rei che è corre l'usanz, non sei pallo su no, taglio che l'ha incantato, e se ne fa sta vuelta domani seguiti la nida e farà, non sei pallo su no. Io che l'ho incantato, doma codiserei di casiti di spizzum che t'ha per incontrare.
Pour arriver de Prada à Olas et maintenant à devenir un Cévenol, un Catalan Cévenol alors.
Pour arriver de la région de Prades, oui, du Roussillon jusqu'au Via, il m'a fallu passer par Lyon. J'ai fait un détour. Mais ça, c'est la profession qui m'a fait déplacer. Voilà, j'étais itinérant. J'étais instituteur, directeur d'école, 3 ans ici, 4 ans là. Voilà. Et au fil des rencontres, on s'est stabilisé, je me suis stabilisé en Cévennes. J'ai dirigé une petite école au Vigan de 1978 à 1984. Enfin, petite école, pas si petite que ça, puisqu'il y avait, quand j'en suis parti, 220 élèves. C'était l'école privée catholique Saint-Pierre du Vigan, voilà, qui existe toujours. Aujourd'hui, hélas, elle n'a plus de 220 élèves. Le travail ayant quitté le Vigan, les jeunes ont déserté beaucoup, et les écoles se sont un petit peu vidées. La population du Vigan a beaucoup vieilli. Voilà, je me suis installé au Vigan professionnellement. Après, je suis parti. 84, je suis allé faire quelques années de plus, 22 ans, à la direction de l'école Notre-Dame de Vauvert. Et puis, au moment de la retraite, eh bien, on est revenu, mon épouse Christiane et moi, nous sommes revenus en Cévennes. Le premier jour que je passais au Vigan, je m'en souviens très bien, j'avais fait acte de candidature pour un poste de direction d'école qui se libérait. Au mois de juillet 1978, j'ai été reçu par le président de l'organisme de gestion, l'association de parents d'élèves. On a visité l'école et j'ai fait la connaissance de quelques enseignantes. Voilà.
Et tu t'es senti bien directement dès que tu as mis un pied au Vigan?
C'est très très bien parce qu'il y avait énormément de boulot à faire. Voilà, énormément. Alors là, on s'est investi dans le boulot. Je sortais de la direction d'un collège à Nyons, en Provence. J'ai postulé, j'avais eu 2 propositions de poste, le Vigan, l'école privée du Vigan, et la direction de l'école privée de Saint-Tropez. Et j'ai visité les 2 écoles.
C'est pas le même trip?
Pas du tout. Pas du tout, pardon. J'ai visité les 2 écoles. D'abord celle de Saint-Tropez, j'y suis allé 3 fois, avant de renoncer. Alors qu'au Vigan, j'y suis venu 1 fois visiter, j'ai dit oui très vite. Parce que nos petites écoles de village, sympathiques, sont des écoles accueillantes. L'école de Saint-Tropez, c'était différent. J'ai quelque part regretté parce que du bureau du maître de la classe de CM2, il y avait vu sur le port de Saint-Tropez. C'était une école magnifique. J'ai eu la chance de rencontrer la directrice sortante qui prenait sa retraite, une femme adorable. Elle m'a dit, écoutez monsieur, si vous... Regardez, je vais vous montrer mes garde-robes. Elle a ouvert des casettes, des placards, mais elle avait des robes, mais il y avait de partout des robes. Écoutez bien ce que je vous dis, si vous vous sentez capable de passer par le chat d'une aiguille, prenez la direction de l'école de Saint-Tropez. Si vous ne vous sentez pas capable, fuyez. J'ai fui au Vigan. Voilà. Ce qui a été pour moi une découverte extraordinaire.
Nehmt euch alle die Hände zusammen.
So take my hand. You are my father.
Alle die Hände zusammenhalten.
So take my hand.
All right.
You are my sister. So take my hand.
Here he comes.
We need each other. Don't try to walk the road alone.
Comment c'était le Vigan en 1978?
Le Vigan en 1978, c'était très différent du Vigan d'aujourd'hui. Une petite ville prospère, beaucoup de commerce qui est florissant. Le Vigan, le matin, s'animait, c'était très souvent dans le village, hein, je dis le village, bon, bien que sous préfecture, c'était un gros village. Et ça a été très très agréable de travailler dans cette école. Très agréable. Dur, parce que le Cévenol n'est pas quelqu'un de facile. Je dirais même que le Cévenol traditionnel est quelqu'un de très difficile. Mais j'étais armé pour lutter contre lui, parce que je suis catalan. Et le catalan n'étant pas facile non plus, je n'ai pas été trop dépaysé en arrivant en Cévennes. La population, bien entendu, elle a énormément vieilli et beaucoup de jeunes ont foutu le camp, sont partis, ils ont en courant après le travail, quoi, s'ils en ont trouvé. C'était une ville active, très active, une ville relativement bourgeoise quand même, hein, parce que, je le disais tout à l'heure, le commerce était florissant. Des gens agréables et sympathiques. Moi, j'ai toujours très bien travaillé en harmonie avec des parents d'élèves. On avait fait du bon boulot. L'équipe enseignante que j'avais été... J'étais dans de très bonnes conditions pour travailler. Personne n'entendra ce que je dis là, non? Pour l'anecdote, j'étais en poste depuis 2 ou 3 mois. Et j'ai quitté l'école, qui se trouve à la rue de Mareille, toujours presque dans le centre du Vigan. Un soir après l'école, j'avais envie de boire une bière. Et bon, j'avais 30 ans ou 35 ans. J'aimais pas trop aller traîner dans les bistrots, puis j'avais pas trop le temps. Alors je suis allé m'acheter un pack de bière, une petite épicerie. Je sors de cette épicerie avec mon pack de bière sous le bras, et là je tombe sur une dame qui travaillait autour de l'école, en bénévolat, quoi, au bureau des parents d'élèves ou de l'OGEC, qui est l'organisme de gestion. Elle me voit sortir avec mon pack de bière et me dit: mais monsieur Carbonnet, que faites-vous là? J'ai dit: bonjour madame. Je viens de m'acheter quelques bouteilles de bière. Mais je ne les boirai pas toutes ce soir, hein, j'en boirai une, voilà, j'en ai plus à mesure. Mais elle me dit: mais monsieur Carbonnet, il ne faut pas venir dans ce magasin. Et puis, pourquoi? Parce que c'est l'épicerie des protestants. Je dis: écoutez, madame machine, moi, j'ai vu une bière, je vais acheter une bière, que ce soit catholique, protestante ou musulmane, je n'ai rien à faire. Je vais chercher ma bière, et rentre à la maison, je bois ma bière.
Merci d'avoir rejoint notre petit voyage culinaire, c'était Cuisiner avec amour. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes, de nouvelles rencontres et de nouveaux moments de partage. Sur ce, continuez à cuisiner avec amour, à partager avec passion et à célébrer chaque instant avec délices.